Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Coucou, c'est Mimi. Et bienvenue dans The Boys Club, le podcast de Mademoiselle sur les masculinités, où un mardi sur deux, avec Fab ou en solo, aujourd'hui je suis en solo, tu l'auras deviné, puisque tu ne l'as pas entendu crier dans ton micro, donc Fabrice n'est pas avec moi, on reçoit un mec pour parler de sa masculinité. Et aujourd'hui je suis avec un invité très chouette, je suis avec Rémi. Bonjour Rémi.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Bien sûr. Donc je m'appelle Rémi et justement j'ai été invité sur ce podcast car je suis en train de créer mon entreprise de sous-vêtements masculins qui s'appelle Jojo et justement qui essaye d'apporter des représentations un peu plus diverses et inclusives de la masculinité. Puisque...
Voilà. Vas-y.
Voilà.
Pourquoi Jojo ?
Pourquoi Jojo ? Alors, c'est le surnom que donnait ma meilleure amie à son ex-petit copain.
Okay.
Et je trouve que c'est hyper sympa. Enfin, je trouve qu'il y a une connotation hyper gentille. Ça se retient facilement. C'est plutôt international, puisque c'est aussi la vocation de la marque. Voilà, tout okay. simplement. Et en vrai, c'est assez compliqué de trouver un nom de marque qui n'est pas encore utilisé. Donc j'ai trouvé celui-là et c'est resté.
Super. Je tiens à dire que Rémi a acheté mon amour avec un petit pot de fleurs et un biscuit qui dit « Coucou, tu veux voir mon Jojo ?»
Exactement.
J'ai vraiment à la fois très envie et pas envie de le manger parce que j'ai envie de le regarder toute la vie. Voilà, message aux futurs invités, n'hésitez pas à m'amener à manger et des fleurs, ça fait toujours plaisir.
Complètement, complètement. Bah, merci à toi de m'avoir sur le podcast, comme je te disais. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur d'être avec toi pour parler de ça en plus, donc trop chouette. Merci.
Bah écoute, je suis très contente aussi, c'est la première fois que je reçois un mec qui a ne serait-ce qu'une opinion sur les sous-vêtements masculins. Je pense qu'on a quasiment jamais parlé de sous-vêtements dans ce podcast et du okay. coup je me dis, on a raté un thème, j'aurais dû demander à tous les invités s'ils portent des slips ou pas. Du coup ça va être un super sujet je pense.
Alors justement j'ai fait une petite étude avant justement de lancer ma marque pour savoir quel sous-vêtement j'allais lancer. Et donc le boxer est le plus porté par les hommes, avec 62%, pour être okay. extrêmement précis. Ensuite, c'était le caleçon, donc un peu plus ample. Et ensuite, c'était le slip en dernière position, ce qui est assez étonnant.
Est-ce que tu vas réhabiliter le slip ?
C'est peut-être prévu, en effet, parce que plus j'en parle à des amis autour de moi, plus eux m'avouent qu'ils portent des slips. Moi, j'ai commencé à porter le slip cette année, mais je suis plus boxer, en vrai.
Ok. Ouais. On va, je pense, dans tout ce déroulé, on va parler de qu'est-ce qui fait que tu finis par créer Jojo, mais j'aimerais bien commencer avec donc la question la plus vaste du monde que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme ?
Alors, en effet, c'est vaste sujet. moi, je le découpe plutôt en deux parties. Donc, physiquement, la représentation de l'homme, du masculin. Aujourd'hui, ça va être majoritairement grand, blanc, bien foutu, jeune, éduqué, qui a un pouvoir d'achat, qui généralement brun. Il y a eu un petit moment blond dans les années 90 avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Aujourd'hui, on va plus sur du brun. Donc ça, c'est physiquement. Et ensuite, émotionnellement, mentalement, c'est quelqu'un qui va être, tu vois, ça va être autour du courage, on va être dans un vocabulaire émotionnel qui est plutôt pauvre, donc pas savoir forcément très bien exprimer ce qu'il ressent. On va être dans le côté protecteur aussi, on va être... Il y a un côté... Ouais, le côté, c'est quoi le mot en français ? Provide ?
Oui, je pense qu'on n'a pas de traduction exacte, mais en gros, c'est la personne qui rapporte l'argent, qui provide un toit, de la nourriture, de l'argent.
Exactement,
à
ouais.
la famille, au foyer.
Tout à
c'est
fait.
Pas celui qui reçoit, c'est celui qui donne, mais sans l'aspect générosité plutôt, qui travaille pour donner, quoi.
Exactement, exactement. Et aussi, qui se construit à l'opposé du féminin. Aussi, ça, je pense, ça fait partie de la définition du masculin.
Est-ce que tu peux creuser un peu cette idée de à l'opposé du féminin ? Je pense que t'es peut-être le premier aussi à l'exprimer, alors que je suis d'accord avec toi, ça fait partie. Il y a beaucoup de caractéristiques traditionnellement masculines qu'on pourrait résumer par ne sois pas une gonzesse, ne sois pas une femme, mais c'est rare qu'on en parle dans ce podcast.
Alors, de mon expérience, j'ai plein de petites anecdotes super rigolotes parce que donc j'ai commencé à me peindre les ongles en début d'année. Je portais des faux ongles hyper colorés. J'adore m'amuser avec les différentes couleurs. Genre, je mets des paillettes, tout. Enfin, je m'éclate. J'ai porté un maillot de bain, une pièce entre guillemets de fille. En dessous d'un jean, donc l'été quand il faisait super chaud, j'avais mon dos qui était dénudé. Et donc ça aussi, c'était une expérience qui était hyper nouvelle et différente, dans le sens où mon dos, j'ai jamais l'habitude d'exposer mon dos, alors que des filles peuvent l'exposer plus souvent. Tout ce qui est lié au maquillage, prendre soin de sa peau, prendre soin de son apparence... En fait, tous ces aspects-là, qui sont considérés comme étant féminins, entre gros guillemets, sont plutôt rejetés par les hommes. Et donc, c'est pour ça qu'on disait, quand on se construit en opposition du féminin, tout ce qui est associé au féminin qui peut être adopté par les garçons, c'est forcément moins bienvenu. J'ai eu beaucoup de regards, beaucoup de critiques, de jugements. Qui se veulent bienveillants, bien évidemment, genre « Ah, mais c'est marrant tes ongles, mais quand est-ce que tu les enlèves ?» Tu vois, genre « Ah oui, j'avais les cheveux roses aussi à un moment, donc « Ah, c'est sympa le rose, mais du coup, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le rose ?» Et donc, ça peut être des bonnes questions, mais parfois...
Est-ce que ça venait principalement d'hommes ou de femmes, ces jugements je pense que la curiosité, elle est plutôt... non genré, ouais. Parce que c'est effectivement atypique de voir un mec avec les cheveux roses, donc si c'est une question naïve, sans arrière-pensée, je pense que c'est non genré.
Ouais.
Mais quand c'est dans le jugement plutôt négatif, est-ce que ça vient plutôt des hommes ou des femmes ?
En vrai, ça vient plutôt... En vrai, c'est les deux, j'ai l'impression, parce que cette mentalité, enfin cette représentation de la masculinité qu'on a en tête, elle est aussi bien... dans la tête des hommes que dans la tête des femmes. Enfin, je veux dire, je pense qu'on, il y a cette construction-là, elle se retrouve vraiment dans les deux genres. Et donc c'est pour ça. Après, j'ai en effet plus d'exemples de garçons qui vont me dire, mais pourquoi ces ongles ? Pourquoi est-ce que tu portes, pourquoi est-ce que tu portes ce maillot de bain ? Mais voilà, ça c'est. C'est plutôt anecdotique. Enfin, je veux dire, ça a un impact, mais j'essaye d'en faire plutôt une force et de m'en détacher, quoi.
Ok.
Avec le temps.
T'as quel âge, là, cette année ?
Là, j'ai 27 ans.
Ok. Ouais. Le but, c'est d'essayer de comprendre comment t'es devenu un mec de 27 ans qui porte du vernis à ongles pour la première fois. Du coup, j'aimerais bien savoir, t'étais quel type de garçon quand t'étais petit ?
Alors, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que les rôles genrés chez mes parents sont inversés, c'est-à-dire que ma mère a toujours gagné plus d'argent, a toujours eu la carrière, a été entre guillemets absente, comme on pourrait imaginer le rôle d'un père classique, traditionnel, alors que mon père était plus à s'occuper de nous à la maison avec mon frère, donc moi et mon frère, il venait nous chercher à l'école. Il cuisine aussi, donc activité traditionnellement liée à la femme, donc un peu le côté Desperate Housewife, tu vois. Parce qu'en plus de ça, on a vécu aux États-Unis, donc de mes 5 à 9 ans. Et donc mon père a suivi ma mère. Et donc en fait, justement, le schéma était vraiment inversé. Ma mère a toujours été celle qui avait, entre guillemets, le plus d'ambition, qui était le moins... émotionnellement bavarde, enfin tu vois, genre qui va partager son ressenti, etc. Et donc ce qui fait que je me suis construit dans ce schéma-là, c'est-à-dire Bah en fait, les rôles genrés peuvent être inversés, et c'est uniquement quand je rencontrais d'autres personnes avec leurs parents et que je voyais cette différence-là que je m'en suis rendu compte.
Oui, j'allais te demander, est-ce que à quel âge tu penses que tu as commencé à piger que, du coup, tes parents faisaient l'inverse du reste du monde, enfin, en tout cas de la majorité. À quel âge tu as pigé que ta famille était dans un schéma un peu atypique?
Ouais, je pense que je m'en suis rendu compte, surtout en rentrant des États-Unis en France, en fait. Donc je suis rentré à 9 ans et directement les amis avec qui les amis que je me suis fait en arrivant en France ont trouvé ça un peu bizarre que ce soit toujours mon père qui soit disponible pour les réunions parents-prof, que ce soit mon père qui m'accompagne à la sortie des cours de gymnastique que je faisais. Et donc je pense qu'inconsciemment ça a commencé à faire une petite place dans ma tête, mais aujourd'hui je suis hyper fier de mes parents, et de justement parce que ça a dû être assez compliqué pour eux en fait dans leur contexte socio-professionnel entre guillemets, parce que aux États-Unis au fin fond du Kansas, que mon père soit le seul homme à s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, enfin c'était assez compliqué à gérer. Je pense que ma mère aussi a dû subir pas mal de critiques vis-à-vis de femmes et d'hommes aussi.
Pourquoi oui, il y a l'aspect mauvaise mère qui se consacre à sa carrière plutôt qu'à ses enfants.
Exactement, comment ça se fait que t'es pas là pour tes enfants? Donc elle a dû gérer genre son ambition et en même temps sa vie familiale, auquel elle a extrêmement bien réussi. Et à côté de ça, du coup, ils m'ont permis de m'explorer en tant que gamin, comme bon je voulais. Donc j'ai pu m'amuser avec des Barbies, j'ai pu faire du patinage artistique, ce qui était trop chouette. J'ai pu faire de la gymnastique, j'ai pu faire du basket. Donc j'ai eu pas mal de privilèges, en vrai, et beaucoup de bienveillance de la part de mes parents. Donc très chouette.
Est-ce que ça vient de ton petit passage aux États-Unis, ce charmant accent que j'entends, ou est-ce que ça vient d'ailleurs?
Tout à fait.
Ça
vient du Kansas. J'ai un accent qui est assez inidentifiable en vrai, parce que beaucoup de gens ont du mal à le situer, à le placer. Mais comme je suis rentré aux États-Unis et que j'ai continué en section internationale jusqu'à mes 18 ans, tous mes amis en plus sont bilingues du lycée, du collège, donc... Et j'écoute beaucoup de podcasts en anglais, je regarde beaucoup de séries, je lis beaucoup de livres en anglais aussi. Donc,
ouais. T'as gardé cette petite part des États-Unis en toi.
Exactement, grave.
Comment ça se passait avec ton frère? C'est ton grand frère ou ton petit frère?
C'est mon grand frère.
Ok.
Ouais, qui a 2 ans de plus.
Et en fait, souvent, alors à la fois dans la vie en général et dans ce podcast, il y a une forme de... On se construit un petit peu en miroir avec son frère ou avec sa sœur. Ou à l'inverse, on essaye de lui ressembler le plus possible, surtout quand on est le Benjamin de la fratrie, quoi, qu'il est là avant nous.
D'accord.
Comment ça se passait, toi, ton rapport à ton frère? Est-ce que lui aussi, c'était un petit garçon qui explorait différents trucs comme toi? Ou est-ce que vous aviez des rapports bienveillants ou une rivalité comme il peut y en avoir des fois dans des fratries?
Ouais, j'ai une relation assez particulière avec mon frère parce que malgré notre petit écart d'âge, on n'a jamais vraiment grandi ensemble dans le même environnement. C'est-à-dire que quand on était donc aux États-Unis, je parle de ça parce que c'était mes premiers souvenirs. Donc oui, on n'était pas exactement dans la même classe. On n'avait pas forcément les mêmes activités. Et au bout d'un moment, lui a changé en plus d'école. Donc aux États-Unis, pas forcément ensemble. En rentrant en France, on n'était pas non plus dans la même école. Du coup, en grandissant, on s'est jamais vraiment croisés. Donc du coup, c'était plus quelqu'un qui était dans ma vie, qui était là, mais pas forcément quelqu'un à qui j'ai agi, comme tu disais, en miroir ou avec qui il y avait une rivalité traditionnelle. Ouais.
Est-ce que tu penses que vous avez quand même une relation où il y a une forme d'intimité? Parce que je comprends bien le fait que vous n'étiez pas dans le même établissement scolaire, mais il y a aussi toute la vie à la maison, la vie personnelle, amicale, etc.
Non, parce que je pense que mon frère a grandi avec un lourd secret. Puisqu'il était lui-même homosexuel. Il a fait son coming out très récemment. Donc je suis trop fier de lui pour
Bravo
ça.
Bravo le frère.
Grave, c'est trop bien. Mais je pense qu'il a grandi avec ce poids-là, ce lourd secret, qui a fait qu'il a dû se sentir assez différent de par sa jeunesse. Il a eu beaucoup de mal à l'exprimer et je pense qu'il a dépensé beaucoup d'énergie à le cacher. Ensuite, moi, j'ai fait mon coming out quand j'avais 20 ans. Donc, en plus, on n'est que deux garçons à la famille. Donc, avoir deux enfants qui sont tous les deux homosexuels, je pense que mon frère a dû se prendre la tête par rapport à mes parents. Mais il est possible qu'avec le temps, on se rapproche. Mais en effet, quand je compare ma relation avec mes amis qui ont d'autres frères et sœurs, on n'a pas forcément beaucoup d'intimité, mais on s'entend bien.
Est-ce que tu as déjà parlé avec lui, maintenant qu'il a fait son coming out, du coup, est-ce que tu as déjà discuté avec lui de comment c'était toutes ces années à vivre dans le placard, à le cacher, peut-être à lui-même refuser cette partie de lui? Est-ce que vous avez déjà eu cette discussion?
Non, pas encore. Pas encore. Je suis toujours tiraillé entre être celui qui amène le sujet sur la table ou être la personne qui écoute. Parce que le coming out est un process qui met plus ou moins de temps. Il l'a fait à 29 ans et justement, une des premières choses que je lui ai dit, c'était que j'étais extrêmement fier de lui parce qu'il y a des gens qui font leur coming out quand ils ont 50 ans ou qui ne le font pas du tout dans leur vie. J'attends que ce soit lui qui vienne vers moi pour m'en parler s'il a besoin. Je lui ai dit que bien évidemment, je serai là no matter what, qu'il avait besoin de conseils, s'il avait des questions. Mais il n'a pas forcément cette personnalité-là. C'est okay. Quelqu'un qui a, je pense, qui est très fier. Donc du coup, ça mettra un peu de temps.
Ok, on fera peut-être un épisode 2 avec ton frère et toi, à cœur ouvert sur la table.
Toi, t'as des frères et sœurs?
Oui, moi j'ai deux sœurs. Et a priori, on est toutes les trois hétéros, je crois. Mais on est aussi assez différentes. Mais pour le coup, on a vraiment grandi ensemble. Et je pense que je me suis construite un petit peu en miroir par rapport à ma grande sœur et ma petite sœur par rapport à moi. Enfin, aux deux, du coup.
Tu es au milieu?
Deux sœurs. Je suis au milieu, ouais.
Ok, d'accord.
Donc, il y aurait tout un truc à faire, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Un jour, peut-être, si quelqu'un... Alors, des fois, il y a des gens qui me disent « Pourquoi tu ne fais pas le Boys Club au féminin ?» Je n'ai pas le temps ni la passion, puisque moi c'est vraiment une passion les masculinités, mais je tiens à rappeler au micro que si vous voulez faire le Girls Club, faites-le, voilà, ce sera cool, c'est pas une marque déposée.
Et qui t'invite au final?
Oui, invitez-moi, on fera un pilote, ce sera très bien. Carrément, je pourrais vous raconter ma vie, ce sera super. Donc tu dis que tu penses que ton frère a mis du temps à accepter son homosexualité, à être à l'aise. Comment tu l'as vécu, toi, la tienne?
La notion d'homosexualité est rentrée dans ma vie assez tardivement. J'ai l'impression que l'environnement, le milieu social dans lequel j'ai évolué m'en a plutôt bien préservé, entre grosses guillemets, jusqu'à ce que je rencontre mon meilleur ami Mathias, qui lui aussi est homosexuel. Et ça a été un peu genre mind blown, tu vois, genre...
T'avais quel âge quand tu l'as rencontré?
J'avais 16 ans, c'était en seconde. Ouais, donc assez tardivement. Après, avec un peu de thérapie, je me suis rendu compte qu'il y avait différents épisodes dans ma vie où j'avais vu ou ressenti l'homosexualité. Mais en tout cas, donc une fois que je l'ai rencontré, j'avais plein de questions à lui poser. Il m'a appris plein de choses et tout, donc c'était excellent. Et donc le processus a été assez long parce que donc de 16 à 20 ans, c'était plus le processus de faire le coming out à soi-même, oui, d'admettre à moi-même que je suis homosexuel, donc admettre que je peux être attiré par d'autres hommes, que je peux avoir des sentiments pour d'autres hommes. Et donc ça, en vrai, ça a été un long process jusqu'à mes 20 ans. À 20 ans, je suis parti au Pérou et une semaine plus tard, j'ai rencontré mon copain. Donc, ça a été hyper rapide.
Ton copain de toujours maintenant?
Non. Okay. Mon premier copain.
Je me disais, waouh, ça fait 7 ans, ils se sont rencontrés au Pérou et tout, c'est dingue.
Non, celui-là a duré une année, toute l'année où j'étais au Pérou. Mais quand je suis parti là-bas, j'étais en mode, ok, je sais que je suis gay, je vais rencontrer quelqu'un. Et ça a été magique. Donc, c'était trop bien.
J'aimerais bien revenir sur cette histoire de... Alors, il y a deux choses que tu as mentionnées qui sont intéressantes. Ouais. La première, c'est que tu as fait de la thérapie.
Ouais.
Et l'autre, c'est que ta thérapie t'a permis d'identifier des moments où, sans t'en rendre compte sur le moment,
ouais,
tu avais vécu ton homosexualité. Tu avais peut-être, je sais pas, eu du désir ou des sentiments pour un garçon.
Ouais.
Parce qu'en fait, quand tu me dis... J'ai découvert l'homosexualité à 16 ans.
Ouais.
Je me dis, ok, t'as passé la puberté qui généralement est une période de désir complètement aléatoire et fulgurant et random,
ouais,
avec les hormones en folie et tout.
Ouais.
Donc, comment ça se passe ta puberté sans savoir que la potentialité que tu sois homo existe,
ouais.
Et qu'est-ce que t'as identifié comme moment où, ok, ça aurait peut-être pu te mettre la puce à l'oreille?
Alors, je pense que je vais y aller chronologiquement. Donc, le premier souvenir de mon désir, c'était avec mon prof de sport quand j'étais aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu rien de pédophile. Hein, genre,
On n'est pas dans ce genre de storyline.
Non, non, pas du tout. C'est juste que mon prof de gymnastique donc, m'aidait à faire des sauts périlleux en arrière. Et donc, pour m'aider, il devait mettre sa main sur mon dos pour m'aider du coup à me cambrer et faire la figure. Et c'est ce premier contact d'un autre homme sur mon corps qui a donc éveillé mon désir pour la première fois. Donc ça, c'est en effet après de la thérapie, parce que du coup, j'ai creusé ce qui se passait dans ma tête. À travers My Jojo, justement, le but, c'est de comprendre d'où vient le désir, etc. Donc ça a été un processus. Ensuite, autre étape homosexuelle dans ma vie, c'est quand on a commencé à regarder du porno avec un de mes amis. Je sais plus exactement le site, mais en tout cas, il y avait une catégorie gay. Et donc, on était en mode, ok, on va regarder qu'est-ce que c'est. Donc là, genre, pareil, gros mindfuck, parce que, tu sais, les thumbnails, les petits aperçus, t'as genre des positions hyper étranges, avec, enfin bref, ça part dans
des tout. Des jambes, des bras, des torses,
ça, ça part dans tous les sens, genre, wow, what is going on?
T'avais quel âge quand tu fais ça?
Je pense que je devais avoir 13 ans.
Ok.
Ouais.
Et alors, c'est un truc très intéressant pour moi en tant que meuf, et qui revient régulièrement dans le podcast, c'est... Les mecs ont une pratique masturbatoire commune. Enfin, je me suis jamais branlée avec une pote, j'ai jamais regardé du porno avec une pote, tu
sérieux?
Vois. Et beaucoup de meufs ne l'ont jamais fait, alors que beaucoup de mecs, dès le premier épisode de ce podcast, m'ont parlé de la branlette entre potes.
Ah ouais, carrément.
Et qui est parfois collective, c'est-à-dire vraiment on est 4 ou 5, ouais. Qui est parfois, voilà, on est que 2, c'est arrivé qu'une fois, on sait pas trop. Et généralement, les mecs hétéros, quand ils en parlent, ils insistent sur le fait que c'est pas gay. Genre, on se branle pas mutuellement, on se branle pas parce qu'on désire l'autre, juste on est au même endroit et on se masturbe. Donc je suis là, ok, c'est pas gay, d'accord. C'est très important, ok.
C'est pas gay, vraiment.
Mais qu'est-ce qui te mène, toi, à te retrouver dans une pièce, avec un pote, à se dire, vas-y, on va regarder du porno. Et est-ce que juste vous regardez ou est-ce que vous branlez en même temps, tu vois? Est-ce que c'est pour regarder ou est-ce que vous êtes en train de vous masturber?
Alors, comment c'est arrivé? C'est-à-dire que tous les mercredis après-midi, avec 5 ou 6 potes, on allait chez moi et on regardait du porno. Donc, mais en fait, quand j'y pense et quand j'en parle, en effet, c'est extrêmement chelou. Mais à l'époque, c'était genre rien de plus naturel. C'est-à-dire qu'on était dans une pièce un peu comme celle-ci. Il y avait l'ordinateur fixe, bien évidemment, à l'époque. Du Marc Dorcel avec Clara Morgan, je sais pas quoi, genre... qui est en train de passer, et donc le mec en question qui est en train de se branler, et nous qui sommes en train de jouer à la PlayStation à côté, genre GTA ou je sais pas quoi, tu vois.
Ok, donc on passe l'après-midi chez toi, et tout le monde fait une activité, et il y a un mec qui regarde du porno, et
ouais,
ça fait un genre
mais
de roulement.
Tour de rôle, quoi. Ouais, c'est ça.
Okay.
Donc une fois que
mais dans
terminé,
la même pièce, quoi.
Dans
sans...
la même pièce, ouais.
C'est ouf. Et tu vois, à chaque fois je dis ça, je trouve ça plutôt sain, en fait, tu vois, de découvert de son corps, c'est pas une honte, t'es avec tes potes, tu te branles, enfin... Au final, pourquoi pas? Mais chez les meufs, ça, j'essaye d'imaginer si en soirée pyjama avec mes copines, il y en avait une qui avait dit bah, « Je vais me branler, je reviens. » Quoi? Jamais ce n'est arrivé.
Du mais coup, du coup, vous regardez jamais fou. De porno ensemble, entre filles?
Non, j'ai jamais... je pense qu'on a dû... Peut-être une fois, il y en avait une qui devait avoir des genres d'images érotiques, mais vraiment pas du porn, quoi. J'ai vu mon premier porn tard. Et genre vraiment, on voit les parties génitales et tout, et on n'en parlait pas. Et en fait... On parlait pas de masturbation avec mes copines parce qu'il y a cette idée de c'est honteux chez une femme de se branler.
Mais
tous les mecs.
Qui t'apprend ça d'ailleurs? Quand tu commences.
Qui t'apprend à te branler?
Qui t'apprend que c'est honteux de se masturber?
Bah, la société. En fait, le monde parle de masturbation. Ne serait-ce que le fait qu'on n'en parle pas. Alors maintenant, ça va mieux, tu vois. En 2019, ça va mieux. j'ai appris le mot masturbation, je pense que j'avais 15 ans. Alors que vraiment, je me masturbais depuis très longtemps, tu vois, mais j'avais pas de mots, je savais pas ce que c'était, je savais pas que c'était normal et que tout le monde le faisait. Et en fait, tout le monde peut mimer une branlette, tu vois. Tout le monde a le geste, tout le monde dessine des bites sur des tables, mais tu sais pas comment c'est pour les meufs, même quand t'es une meuf, tu sais pas si c'est normal ce que tu fais. T'as eu quelques échos, genre, ok, dans Sex and the City, elles avaient un sextoy, mais c'est un truc, bon, quand t'as 14 ans et que t'es vierge, tu vois la gueule du rabbit, t'es là. Je sais pas si j'ai envie de ça dans ma vie. C'est impressionnant, quoi. Et en fait, t'as jamais un film.
Mais ce sentiment de honte, justement, oui. Parce que t'as dû commencer tôt, non, genre.
Oui, bah moi, je me masturbe depuis que j'ai des souvenirs, tu vois. Donc vraiment,
mais
oui.
Donc, à quel moment t'es en mode genre, ok, ça c'est.
Bah en fait, si tu fais un truc et que personne en parle et que tu sais pas que t'es pas la seule à le faire, tu te dis ça doit être bizarre. T'apprends assez vite que les parties génitales c'est intime et que voilà, c'est un truc qui appartient à toi et que personne doit les toucher et tout ça.
D'accord.
Mais du coup, c'est tellement un tabou que tu te dis, imagine, j'en parle et je suis la seule et je suis bizarre et les gens ils vont me dire que je suis bizarre. Alors qu'en face, t'as American Pie avec le mec qui se branle dans une tarte aux pommes et c'est un film qui est culte et que tout le monde a vu et c'est une scène dans une comédie. T'as pas une comédie pour ados avec une meuf qui se branle avec un concombre, tu vois, ça n'existe pas. Donc c'est juste le tabou qui fait que t'en as honte jusqu'à ce que t'apprennes que tout le monde le fait et où là tu fais. Ah, ça va! Et du coup, effectivement, toutes les filles avec qui j'ai fait des pyjama parties se masturbent dans leur vie, mais pas ensemble, clairement.
Quand j'y repense, la scène, c'est quand même extrêmement étrange. Genre, t'imagines, tes enfants qui font ça, t'es en mode. What is going on here?
Mais en toute détente, genre, un GTA, une branlette, voilà, une après-midi, quoi. Mais je sais pas, c'est différents types de loisirs, de plaisirs. Ok, donc tu. Et c'est en explorant ce porno-là que tu tombes sur la partie gay par curiosité. Mais
tout
ça, je comprends,
mais
tu vois.
Mais c'était une fois, tu vois, genre, vraiment anecdotique. Je me suis juste souvenu de cet épisode-là. Et pareil, en effet.
Mais est-ce que, du coup, toi, à cette époque, tu te branles sur du porno hétéro?
Oui, oui, bien sûr.
Ok.
Et j'ai des copines.
Ah, ok, t'es sorti avec des filles et tout?
Je suis sorti, enfin. J'ai jamais couché avec une fille. Mais j'ai. Je suis sorti, j'ai fait des bisous, j'ai été sexuellement attiré par des filles, jusqu'à
D'accord.
ce que la notion d'homosexualité m'arrive en pleine face. Je suis en mode, ooh, I like that. Let's explore that.
Ok. Et du coup, comment t'as compris que t'étais homosexuel et pas bisexuel, par exemple, puisque t'as pu être attiré par des femmes? C'est une nuance, je pense, qui n'est pas forcément claire pour tout le monde.
Ouais.
Parce que du coup, quand t'étais avec ces filles, tu faisais pas forcément semblant, tu vois.
Bah ouais, grave.
T'aimais bien quand même,
ouais.
Mais le jour où tu découvres qu'on peut être homosexuel, t'es là, c'est ça mon truc.
C'est bien que t'en parles, parce qu'en effet, la notion de bisexualité a fait partie du process, où je me suis dit, tiens, je suis attiré par des garçons, est-ce que ça veut dire que du coup je suis bisexuel? Peut-être, à explorer. Le truc, c'est que j'ai rencontré aucun garçon jusqu'à mes 20 ans. Enfin, j'ai déclaré ma flamme à un très bon ami à moi, qui a été plutôt poli dans son refus. mais après le lycée, j'étais en école de commerce. Donc l'école de commerce post-bac, tout ce qu'il y a plus classique, donc genre zéro homo, ou en tout cas qui ne sont pas...
Pas out, en tout cas.
Exactement. À l'époque, parce que je pense que ça a bien changé quand même maintenant, j'espère. Et donc du coup, l'opportunité d'aller au Pérou était, enfin, c'était un peu la nouvelle vie, l'opportunité de rencontrer quelqu'un et ça s'est fait.
Ouais. Est-ce que t'as, alors, je pense que la question est naïve, je pense que la réponse est oui, malheureusement. J'avais demandé, est-ce que t'as vécu de l'homophobie? Je pense qu'on vit dans une société où c'est compliqué de pas en vivre, mais est-ce que ça a fait partie aussi des trucs que t'as dû, qui rentrait en compte dans ton chemin vers « Ok, accepter que je suis homosexuel, faire mon coming out », donc toutes ces étapes. On a le même âge, donc on a vécu la belle période de mariage pour tous en France avec les gens qui défilent dans la rue pour lutter contre tes droits.
J'étais au Pérou, justement, à ce moment-là.
Ouais. Ok. Ouais. Mais c'était quoi? En fait, moi, je sais, quand j'étais ado, l'homophobie était ultra normalisée. Il y avait vraiment plein d'insultes homophobes qui volaient. C'était impossible d'être out dans mon collège, par exemple. Mmh. Et je me dis que, bah, du coup, pour un mec pas hétéro, ça doit être une vraie violence, même si t'en as pas 100% conscience, tu sens quand même que t'es un peu concerné par ces insultes. Ouais. Du coup, comment tu grandis dans une société qui reste malheureusement homophobe?
Bah, avec beaucoup de honte. Beaucoup de honte, je pense que c'est... à travers la thérapie, c'est quand même un sentiment... justement, j'ai mis le doigt dessus il y a pas très longtemps. Et la honte, ça a été vraiment le fil conducteur, le fil rouge de toute ma vie. C'est-à-dire que au collège, quand je disais que j'adorais Mariah Carey, on me traitait de sale pédé. Quand j'ai été le premier à faire la bise aux filles et que justement je me créais plutôt des copines, pareil, on me traitait de sale pédé. Que j'étais une tafiole, enfin tu vois, toutes les insultes. Quand je prêtais attention à la manière dont je m'habillais, pareil. Donc du coup, à travers ces insultes, à travers justement, comme on disait en plus, tout ce qui est lié un peu au féminin, j'ai compris que c'était quelque chose qui n'était pas forcément accepté, qui n'était pas forcément bon. Et donc ça a été difficile de m'en détacher, surtout que ça venait d'amis qui étaient quand même très proches, des amis qui je suis toujours. C'est pour ça que c'était important pour moi de me détacher de ce groupe-là et de pouvoir construire mon identité, ma personnalité, de m'assumer entièrement sans les avoir dans ma vie pendant une période. Donc j'ai eu la chance, pour ça que le Pérou, ça reste aussi genre the new beginning, tu vois. Mais en effet, c'est compliqué. Dans ma famille, pas tant que ça. Je sais qu'il y a une cousine lointaine qui a 50 ans, qui est toujours célibataire, qui a un physique de lesbienne. Mon père a pu faire quelques blagues homophobes à ce sujet-là. Mais globalement, j'ai aussi beaucoup de chance parce que ma cousine a aussi fait son coming out auprès de notre famille. Donc ça a été la première à débroussailler en fait toute l'homophobie qui pouvait y avoir au sein même de notre famille. Et donc moi je suis arrivé en deuxième petit enfant quoi, grosso modo. Et le travail était entre guillemets fait. Donc
elle s'était jetée à l'eau en premier pour voir est-ce qu'elle est très froide, ça va, ok. Bon, et du coup le Pérou, tu arrives au Pérou, qu'est-ce qui se passe et c'est qui ce garçon et comment se passe la rencontre, parce que du coup c'est ton premier petit copain. Et une première fois, c'est toujours... c'est souvent un peu stressant, t'es un peu maladroit, tu sais pas forcément comment faire et tout. Donc, tu le rencontres une semaine après ton arrivée. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai eu beaucoup de chance parce que ça s'est fait tout naturellement. Je l'ai vu, il m'a vu, on s'est vu, et ça a été coup de foudre. Genre vraiment, genre série, film américain. Et donc, je l'ai dragué directement. J'étais en mode genre, salut, est-ce que tu vas à la fête ce soir? Oui, très bien, voici mon numéro. Dis-moi quand t'es là. Parfait. À la fête, on s'est vu. Je l'ai dragué un peu. Je savais pas s'il était homosexuel non plus, donc il y a eu un peu de cette phase un peu ambiguë. Et ça a duré peut-être une semaine où on se voyait quand même tous les jours. Et un soir, on est sortis en boîte et on s'est embrassés pour la première fois et... Je te jure que c'était vraiment comme dans un film. C'est-à-dire, tu sais, le plan séquence où, genre, la caméra tourne autour du bisou, tu sais, t'as genre les lumières de folie et tout, genre, c'était incroyable. Et donc, ça a été une super relation.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Très intense parce que du coup on était tous les deux au Pérou, c'était tous les deux la première fois qu'on était en couple.
Lui il était péruvien ou il était aussi
Il était américain.
Ok.
Il était américain, donc en plus on avait cette culture-là commune de base. Il s'appelle Ryan en plus, tu vois genre.
T'as pécho Ryan.
Yes. The American Dream. Et c'était mais il y a eu beaucoup de drama, enfin tu vois, première relation, tout est hyper intense, on est hyper vulnérable, c'était vraiment trop intense quoi. Donc des hauts super hauts, des bas super bas, on apprenait tous les deux à être en couple pour la première fois, donc beaucoup de larmes, beaucoup de jalousie, voilà, grosso modo.
Comment ça se passe votre première fois ?
Sexuelle ?
Oui.
Bah écoute, étonnamment, plutôt bien.
Lui, c'était sa première fois aussi avec un garçon ?
Oui. Il m'avait dit que, d'ailleurs que c'était qu'il avait déjà couché avec des filles, au final non. Donc en fait, c'était tous les deux notre première fois aussi. Je l'ai appris quand même 8 mois après. Donc je t'ai informé.
Pourquoi il voulait pas admettre, genre il avait peur de... d'avoir l'air puceau, quoi. Il voulait pas dire que...
Oui, okay. Masculinité, masculinité toxique. Il faut être... Enfin, tu vois, genre à 20 ans, c'est trop bizarre d'être puceau.
Il doit y avoir un truc qui cloche. Il n'y a pas d'âge pour faire sa première fois. Faites-la quand vous en avez envie et l'autre personne aussi. Voilà.
Tout à fait. Et écoute, sexuellement, donc j'imagine que tu as des amis qui sont gays. Donc tu c'était l'actif et le passif. Et pendant hyper longtemps, j'ai cru que j'étais passif. Parce que être gay, pour moi, c'était être passif. Et au final, pas du tout. Donc du coup, je me suis découvert une espèce de dumb top. un rôle de dumb top qui m'allait plutôt bien. Et ça s'est fait hyper naturellement, quoi. C'était hyper tendre. C'était le lendemain, du coup, de cette fois où on s'était embrassés. Et je sais pas, on était protégés, on a pris notre temps, on a tous les deux découvert notre corps, on s'est fait plein de bisous. C'était un super beau moment, quoi.
Trop chou.
J'en garde un très très bon souvenir. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu... après en avoir parlé avec d'autres amis, en effet, je pense que beaucoup de gens n'ont pas eu cette même expérience. Mais j'en garde un très très bon souvenir, quoi.
Ouais. Cool. Et du coup, vous savez que... Enfin, vous partez du principe que votre relation a une deadline, puisque vous avez chacun que 1 an au Pérou.
Exactement. Lui avait même 6 mois.
Ah, ok.
Il l'a étendu pour moi.
Évidemment. Comment ça se passe, la séparation ? Est-ce que c'est hyper déchirant, hyper drama, parce que voilà, vous êtes beaucoup dans les hauts et les bas, ou est-ce que c'est... Bon, ben, on le savait, c'était une belle expérience de vie. Est-ce que vous envisagez de peut-être... vas-y, je te suis, ou tu me suis, on reste ensemble ?
Ouais, ça a été assez compliqué vers la fin. Surtout que ça a commencé 3 mois avant le départ, parce que 3 mois t'es en mode ok, dans 3 mois on va plus se voir, comment est-ce qu'on va faire. Donc moi j'étais hyper triste, lui aussi, du coup on s'en voulait, donc ça a été pareil, hyper drama. Et je pense que c'était un moyen aussi pour nous de moins s'aimer pour que ce soit plus facile quand on se quitte. Donc en se faisant des coups de merde, en disant ok, on arrête tout de suite et on profite du fait qu'on soit homo à Lima pour rencontrer d'autres garçons, etc. Donc ça a été hyper compliqué. Mais oui, quand je suis parti en France, il était en mode ok, bon bah je vais essayer de trouver un moyen de venir en France. Sauf que moi j'allais au Brésil après.
Donc, un garçon dur à suivre.
Donc lui était en mode genre ok, bah si tu pars au Brésil, on n'est plus ensemble. Et j'étais en mode j'ai pas envie de ça. Donc pendant un moment, je me suis dit que j'allais pas aller au Brésil pour que lui vienne en France, mais en France, pas à Paris, à Angers. Donc ça allait être... On passait de long distance à medium distance. Mais finalement, j'ai rencontré mon copain d'aujourd'hui et j'étais en mode genre bye bye Ryan, coucou Charles.
Ok, hello ouais. Charles.
Coucou Charles.
J'espère on t'embrasse que tu m'écoutes. Charles. J'espère. C'est qui Charles ? C'est quoi votre histoire ? Comment ça se passe ?
Charles, donc c'est le garçon avec qui je suis depuis 6 ans. Donc il m'a été introduit à travers mon pote Marc, qui tout bêtement est un mode genre, maintenant que tu as fait ton coming out, j'ai un autre pote ped à te présenter. Hop, on les met ensemble, on va voir ce qui se passe. Et ça s'est hyper bien passé. Donc pareil, un peu coup de foudre le premier soir. Charles avec son beau sourire, sa petite chemise, j'adore. Coucou. Donc pareil, en fait, à partir du moment où j'aime beaucoup la personne, j'ai pas peur du tout d'aller l'approcher et de lui dire « Salut, Rémi, enchanté, what's up, parle, qui es-tu, voici qui je suis, voilà. »
Et du coup, elle ressemble à quoi votre relation avec Charles ?
Donc elle a commencé à distance, parce que lui est à Istanbul, pendant que moi j'étais à Paris.
T'aimes bien de compliquer la vie quand même.
Non,
hein,
non, mais c'est assez compliqué, ouais. Enfin, ça a démarré à distance, parce que du coup, lui était à Istanbul, ensuite il est rentré à Paris, moi je suis parti au Brésil. Ensuite, on vit ensemble à Paris pendant 1 mois, et ensuite je décide de partir en Pologne pendant 1 an et demi.
Le mec ne reste jamais en place.
Donc pendant grosso modo 3 ans, on était à longue distance.
Et comment tu... En fait, je trouve ça fou que tu passes d'une relation qui est compliquée, qui est intense, qui est une première relation avec tous ses défauts et ses qualités, ouais. et que tu arrives quand même à gérer 3 ans longue distance, qui est impossible pour beaucoup, beaucoup de gens, parce que c'est juste très, très dur émotionnellement. Il faut une forme de maturité, de... Tu parlais de jalousie qu'il pouvait y avoir avec Ryan, bah... Ouais. Si t'as un tempérament jaloux et que l'autre est à l'autre bout du monde sur un autre fuseau horaire, t'es là, yes, vraiment, ma vie est simple. Comment vous arrivez à gérer tout ça, en fait?
Bah, l'avantage de Charles, c'est qu'il est extrêmement différent de Ryan. C'était vraiment le jour et la nuit. Donc quelqu'un de très mature, quelqu'un de très calme, de très tranquille, et qui m'a laissé beaucoup de place, justement, puisque j'ai une personnalité avec lui, en tout cas, qui prend beaucoup de place. Qui m'a appris à communiquer, à exprimer mes émotions. Et on a appris à se connaître, du coup, comme on avait beaucoup de temps à longue distance. Beaucoup de messages échangés, beaucoup de photos. Et c'est quelqu'un de très curieux, qui est très sympa. Enfin, tu le rencontreras, c'est vraiment un amour. Bon, la plus grosse des chouquettes, quoi. Et donc, ouais, we made it work. Il est venu me voir au Brésil. Moi, j'étais allé le voir à Istanbul. Après, quand j'étais à Londres, bah, il venait quasiment tous les week-ends. Donc, beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir eu dans ma vie, quoi, de l'avoir toujours dans ma vie. Ouais. Mais la longue distance, en effet, ça ne fonctionne pas tout le temps. Après, je ne dis pas qu'on a tous les deux été extrêmement fidèles.
Ok. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus en détail?
Ouais. Si j'ai encore de la voix.
Ce serait bien pratique de perdre ta voix à ce moment-là. Oh non, je ne peux plus parler.
Ah mince, désolé.
Oh, t'es mi-mort du coup. À quel moment est-ce que la fidélité a clignoté?
Assez rapidement en vrai. Depuis le... Au Brésil déjà. Mais je pense que tous les deux... Comment dire? On a été... plutôt fluide sur cette notion d'exclusivité et justement qui a entraîné au fait qu'aujourd'hui on est en couple ouvert, mais je pense qu'on avait des, je pense que lui me comprend, moi je le comprends, on est vraiment dans une écoute, dans un respect mutuel, ce qui fait que tant que moi je reste loyal envers lui, que j'ai toujours envie de l'aimer, de passer du temps avec lui, notre relation tient. Et enfin, je parle pour moi parce que je suis là. Lui parlerait de lui. Mais voilà.
À quel moment t'as fait une thérapie? Enfin, t'as commencé en tout cas.
J'ai commencé la thérapie en novembre 2018.
Ok.
Ouais, donc y a un an. Presque un an. Wow.
Bientôt bon anniversaire de la thérapie.
Yeah. Grave. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a mené à faire ça?
La démission de mon ancien travail qui m'a du coup libéré pas mal de temps, et je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais besoin de renforcer ma santé mentale, parce que donc je fais beaucoup de sport et prends beaucoup soin de ma santé physique, sauf malheureusement là comme tu l'entends. Mais la santé mentale, justement, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers des amis qui ont eu des crises d'angoisse, qui ont eu des problèmes de santé mentale, à travers ma coloc, pareil, mon ex-coloc, pardon, qui était en dépression. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, écoute, je vais essayer. Il y avait aussi une relation un peu foireuse avec un autre garçon qui a été assez difficile à gérer, assez compliqué à gérer, donc... Du coup, je me suis dit, je vais m'aider d'un professionnel qui peut me guider, qui peut arriver à m'orienter et m'aider à m'en sortir, quoi. Sans que ça soit genre hyper tragique. Et j'adore. Ouais. Je suis trop fan.
Comment t'as fait pour choisir Du coup, c'est un psy que tu vois?
C'est un psy que je vois.
Est-ce que tu penses que c'est important pour toi que ce soit un mec?
Alors justement, à la base, j'ai commencé par voir une psy qui était gay-friendly. Parce que je me suis dit que j'allais être dans un climat de confiance, quelqu'un qui pouvait me comprendre, etc.
Et donc ça, tu l'as su par du bouche à oreille
Sur Internet.
Internet, ok.
Psy Paris, LGBT friendly ou gay friendly, je ne sais plus. Finalement, elle n'était pas si bonne que ça, juste en tant que psy. Mm-hmm. Ensuite, je suis allé voir une autre psy femme, de nouveau, parce que, donc, comme tu peux le voir, je suis très à l'aise pour communiquer et exprimer ce que je ressens avec des filles. Sauf que celle-là, j'avais l'impression de me confier à une meilleure amie. Sauf que même elle n'avait pas beaucoup de répondants, donc c'était plutôt genre, je sais pas, une porte, tu vois, qui était en mode genre, d'accord. C'est un peu le cliché, genre, and what do you think about that?
Oui, donc, le cliché de la psy où tu vides ton sac et elle dit, ok. On se revoit dans 2 semaines.
C'est ça.
Est-ce que j'ai vraiment avancé? Je ne sais pas.
Exactement. Surtout si j'ai envie de raconter tout et n'importe quoi, j'ai mes amis pour ça, donc il n'y a pas de souci. Et donc finalement, je me suis dit, et si j'allais voir un psy mec? Parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir me livrer, m'ouvrir à un autre garçon, puisque je n'ai pas forcément l'habitude de le faire ou l'aisance de le faire. Et donc j'ai trouvé ce psy-là, qui est exceptionnel et qui, donc à travers Doctolib, vraiment super randomly, tout simplement en effet, à côté de chez moi, c'était pratique, et ça a très très bien matché, donc ouais, ça fait plus de 10 mois qu'on se voit.
Qu'est-ce que t'as appris en un an de thérapie? Du coup, on a parlé de ces étapes dans ton chemin vers l'acceptation de ton homosexualité que t'avais pas forcément identifié du coup à l'époque où elles sont arrivées. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que t'as appris? En fait, c'est rare qu'on ait des invités qui ont été voir des psys.
Ouais.
On a des invités qui, et je dis ça sans aucun jugement de valeur, qui je pense en auraient besoin, mais qui ont peur de le faire.
T'as jamais vu de psy?
Moi, si, ça va, mais il y a notamment, je peux le dire parce qu'il le dit dans le podcast, Lucien Mène qui est venu, qui est un comédien et auteur, et qui commence en disant moi, je vais pas, je sais que ce serait bien d'aller voir un psy, mais ça bloque, j'arrive pas, j'y vais pas, je bloque là-dessus. Et du coup, en fait, tout son podcast, c'est quasiment une séance de psy, quoi. Il fait toute sa thérapie, il est là, oui, alors du coup, les rapports avec mon père et tout, machin, c'est hyper deep. Je suis là, mais pourquoi tu vas pas voir un psy? Tu sais le faire, puisque tu viens de le faire, tu sais parler de toi. Et dans sa tête, il y a le blocage de les psys, c'est pour. C'est un truc de vulnérabilité qu'il est pas prêt à faire, quoi. Aller voir un psy, c'est dire j'ai un problème, il veut pas avoir de problème. On a un autre invité qui était Tanguy Rousseau qui a dit moi je vais pas avoir de psy parce que je suis pas malade. Et du coup, bah, les psys, t'es pas obligé d'être malade. Ça peut être juste de l'entretien, prendre soin de toi, comme tu dis, de ta santé mentale et tout.
Tout à fait.
Mais pour les mecs, c'est pas toujours très simple de se dire je vais aller écouter mes émotions, parler de ma vulnérabilité, apprendre à affronter et à gérer ce que je ressens, en fait, plutôt que de tout mettre sous le tapis, par exemple, et revenir sur des moments de mon passé qui sont pas forcément très agréables. Et me confier à quelqu'un, et en plus payer pour ça, c'est plein de petites étapes mentales. Donc il n'y a pas tellement d'invités qui me racontent des thérapies. Donc ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu as appris pendant tes 1 an de thérapie.
Plein de choses. Mais déjà, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, bien évidemment, parce que ça fait un bien fou. Et plutôt aussi de le voir comme... tu vois, genre, pourquoi... Je compare ça sous, enfin, je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais à aller se faire faire un massage. Si je te dis va te faire masser, bah oui, ok, pourquoi pas, ça me fait du bien.
C'est plutôt cool. Donc, après, il y a beaucoup de mecs, cela dit, qui seraient pas à l'aise avec le fait d'aller se faire masser non plus, parce que c'est un peu gay, tu sais, les massages. C'est pas très viril. Il y a de l'huile et tout, tu sais pas.
Oh mon dieu, mais ça fait trop du bien. Bah, c'est un peu comme la thérapie, ça fait trop du bien. Mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à me détacher du regard des autres. Et ça a été une énorme soulagement. Enfin, et ça, j'ai appris à l'identifier. Que ça venait de la peur, ça venait de l'homophobie que j'avais intériorisée. Quand je me baladais dans la rue, j'avais peur de me faire agresser. Il y avait aussi apprendre à être triste. Parce que c'est une émotion que j'ai... Je pense que la tristesse est une émotion qui est extrêmement taboue dans ma famille et dans mon entourage. Il faut toujours être heureux, il faut toujours sourire, il faut toujours être positif. Et en fait, un peu comme le film de Pixar, Inside Out, je travaille actuellement sur accepter la part de tristesse qui existe en moi. C'est une très belle émotion justement que je dois accueillir, accepter et composer avec. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris à faire le deuil sur la personne que j'étais avant, J'ai appris à faire le deuil sur des relations passées. Putain, on dirait que j'ai une voix qui va pleurer. Alors que pas du tout.
Cette personne est très en forme, promis. Tu pourrais pleurer. Écoute, c'est arrivé une fois ou deux que des invités pleurent au micro, mais j'ai pas l'impression
que... Oh, wow.
Que... Yes. Ouais. Des fois, les gens racontent des trucs tristes et ça les émeut.
M'écoute pas cette fois.
Il a juste un chat dans la gorge, ok ? Tout le monde a la crève, c'est octobre.
Ouais, donc faire le deuil sur qui j'étais, faire le deuil sur des valeurs que j'avais dans le passé qui sont plus forcément là, faire le deuil sur des relations, comme je disais, avec des garçons, et accepter en fait qui je suis avec toute la palette d'émotions que ça peut avoir.
C'est déjà pas mal en un an, écoute, c'est très bien. Ça bien. Explique pourquoi du coup cette année t'as osé les cheveux roses, les ongles vernis, etc.
Exactement, ouais.
Cette idée de regard des autres qui n'est plus un frein, c'est cool.
Complètement. Bah, ça a été un processus parce que c'est aussi en ayant toute cette transformation physique que je remarque le regard des autres, je remarque ce que ça me fait et comment composer avec et comment être fier de qui je suis. Et... Ouais.
Trop cool. Parlons du coup de My Jojo. Quand est-ce que ça devient cette idée de « Ok, je vais faire des sous-vêtements masculins ».
Donc My Jojo, ça commence parce que, donc, comme je te disais, j'ai quitté mon job en novembre, ce qui fait que j'avais beaucoup de temps. Donc ce temps-là, pour me permettre de chercher exactement qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime, mais aussi beaucoup de temps pour être sur Tinder, donc swiper des profils. Et en fait, je me rends compte que il y a très peu de profils de garçons qui me plaisent. Genre vraiment des... centaines de profils que je vois passer et je me dis ouais, enfin non, sauf que ces personnes là existent, mais pourtant elles sont absolument pas représentées comme étant le canon de beauté, comme étant désirables. Et du coup je me suis dit, ça a commencé à creuser qu'est-ce que je trouve désirable, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je considère comme étant attirant.
Parce que du coup toi, tes goûts étaient plutôt dans les canons de beauté traditionnels, donc des hommes peut-être musclés, pas trop poilu, avec pas trop de graisse, plutôt blanc. Enfin, ce que tu décrivais en début d'émission comme
exactement.
L'homme physique qu'on imagine, c'était plutôt vers ça que ton attirance allait.
Exactement. Moi, je cherchais des hommes jeunes, blancs, bien foutus, barbus, bruns. Tu vois, genre une espèce de liste de courses. Genre ça, c'est mon physique et les autres, ciao. Sauf que ça n'existe pas vraiment, en fait, ce genre de physique. C'est une espèce d'idéal qui nous est projeté.
Bah non, parce que c'est toi.
Girl,
bah si. Ouais, mais c'est marrant ce truc de, en fait, t'éprouves du désir vers quelque chose qui te ressemble beaucoup, non, quoi.
Complètement. Ça aussi, ça a été une énorme piste de réflexion, en mode genre, mais du coup, est-ce que j'aime que les gens qui me ressemblent ?
Est-ce que je veux me pécho moi-même ?
Mais est-ce que du coup, je suis genre amoureux de moi-même ? Enfin, tu vois, genre, en effet, mais en fait, à partir de cette question, qu'est-ce qui est désirable pour moi ? Ça... était un espèce de rabbit hole en anglais, donc le trou de...
Le terrier du lapin.
Le terrier du lapin où tu vois pas le bout parce que ça ouvre tellement d'autres questions. Pourquoi est-ce que je suis attiré par ce genre de personnes ? Pourquoi est-ce que on ne voit que ces personnes comme étant désirables ? Où sont les représentations de personnes comme mon père, tu vois, qui, à 60 ans, est jamais montré ? Où sont les personnes de couleur ? Comment ça se fait que je ne sois pas forcément attiré par des personnes de couleur à l'époque ? Et en fait, à partir de là, je me suis dit, ok, j'ai envie de participer à ce changement-là. J'ai envie de montrer d'autres hommes. J'ai envie qu'ils soient tout aussi désirables. Donc, comment faire ? Bah, j'ai trouvé le meilleur moyen d'y arriver, c'est de commencer par les sous-vêtements. Parce que qui dit sous-vêtements dit exposition des corps, et donc du coup toute la palette de couleurs, toute la palette de morphologie, tous les âges, toutes les identités, et donc là ça fait genre wow, fireworks in my head, et donc en est découlé justement cette entreprise My Jojo.
Et t'en es où là du coup? Ça fait un an même, à peine.
Donc j'ai commencé à créer le compte Instagram fin mars @myjojofr. N'hésitez pas à suivre. Exactement. Et j'ai reçu donc les boxeurs la semaine dernière. Et donc là, je vais préparer le lancement de la marque.
Donc, tu as fait ton premier shooting, il me semble.
J'ai fait mon premier shooting fin juin, en effet. Merci de t'en souviens. Wow, merci.
Quand même.
Fin juin, avec plus de 20 hommes qui habitent en région parisienne, qui se sont déplacés en banlieue parisienne pour le shooting. Et je les remercie du fond du cœur, c'était exceptionnel.
Est-ce que tu poses toi aussi ou pas ?
Non.
Okay.
Non. Non, parce que justement, comme tu l'as dit toi-même, je représente plutôt le standard de beauté. Je préférais mettre en avant d'autres corps. Et surtout que moi, j'étais en plus le jour du photoshoot, j'étais en train de chapeauter tout. Ouais. J'organisais genre les interviews vidéo. Donc, non.
Est-ce que tu as réussi à trouver la diversité que t'espérais ? Parce que moi, je te pose la question parce que c'est un truc aussi qu'on a toujours en tête chez Mademoiselle quand on fait des événements avec des lectrices, quand on fait des castings parfois pour des shootings photos ou pour des clips où on veut faire intervenir des lectrices.
Ouais.
C'est que nous, on vise à la plus grande diversité possible, à la fois effectivement en termes de morphologie, de style, de couleur de peau, etc. Mais comme on voit, en fait, comme on ne voit que des meufs bien foutues blanches dans la vie, bah, il y a plus de meufs bien foutues blanches qui vont être là en mode « Oh grave, un casting, je vais y aller, c'est marrant », que de meufs qui sont soit moins bien foutues, avec les guillemets, hein, soit pas blanches, soit etc. En tout cas, qui sont pas plus t'es loin des canons de beauté, plus c'est compliqué de te dire « Ah, un casting, je pourrais y aller », ou en plus en sous-vêtements, tu vois, genre « Ouais, je pourrais poser en sous-vêtements ». Et le mouvement body positif, pour l'instant, est très axé autour des femmes. Donc autour des femmes, ça se libère, mais ça reste encore un peu une galère. Et je sais qu'en fait, si on dit juste « Eh, on cherche 10 meufs pour poser en sous-vêtements », on va avoir 8 meufs qui font du 38, parce qu'en fait, c'est déjà un cap pour elles, mais t'as plus de complexes si t'es moins dans les canons de beauté, potentiellement. Et du coup, même si nous, on espère une diversité, on n'a pas forcément une diversité de personnes qui se sentent concernées, en fait, tout simplement, par dire « Salut, on cherche des meufs pour poser ». Il y a toute une catégorie des meufs qui, dans leur tête, c'est impossible qu'elles posent, alors que elles sont tout à fait légitimes, parce qu'elles se voient jamais, donc elles font même pas le lien entre ouais. « Ok, je veux... » Quelqu'un veut que je pose, c'est pas possible quoi. Donc, est-ce que t'as réussi à avoir assez de diversité ou est-ce que t'as dû creuser en te disant « Ok, j'ai fait un appel à casting, et ben bah, guess what, j'ai des brins barbus musclés, c'est chiant !»
Non, pas vous.
On vous connaît déjà, ça va, on vous voit partout.
J'ai la chance d'avoir une communauté sur Instagram qui est hyper diverse. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que donc j'ai commencé, comme je disais, fin mars. L'appel à casting, je l'ai fait début juin. Donc ça veut dire qu'il y avait avril, mai, 2 mois où j'avais déjà une petite communauté de personnes qui comprenaient ce que j'ai essayé de faire. Et donc du coup, dès que j'ai émis la possibilité d'un shooting, ils étaient hyper chauds. Ils ont partagé surtout l'appel à candidature. Après, ça demande aussi beaucoup de travail de mon côté d'aller envoyer des messages aux personnes en disant « Hey, j'ai vu que tu me suivais, j'ai l'impression que t'aimes bien mon truc, mon projet, est-ce que t'as envie de participer à mon shoot ?» Et donc bien évidemment j'ai des réponses en mode genre « Mais je suis pas mannequin, j'ai jamais fait ça, je ne correspond pas du tout aux critères de beauté. » Et du coup moi mon travail c'est en mode « Bah justement, je veux que tu viennes et j'ai envie que tu puisses montrer aux autres que tu es sublime, qu'il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas participer à ce photoshoot. Et tu verras, tu vas bien t'amuser. On sera entre 20 et 25 mecs. Ça va être drôle. Je t'offre une super après-midi détente. À la clé, en plus, tu as un boxeur tout propre. Donc,
Et une belle photo pour Tinder.
Et une très belle photo pour Tinder, en effet. Exactement. Mais...
Donc, tu as quand même dû faire ce travail actif d'aller solliciter des profils différents pour avoir cette diversité. Ce qui m'étonne pas en soi, hein, mais je pense que tout le monde a pas en tête que faire un casting avec de la diversité, c'est pas aussi simple que de juste poster une annonce. C'est souvent, oui, aller solliciter les gens qui se sentent pas concernés pour leur dire vraiment tu es légitime à le faire et c'est important de faire la démarche, donc c'est
bien cool. Bien sûr, ça demande un peu de travail, en effet, mais c'est hyper... rewarding, je sais pas comment on dit en français, valorisant.
C'est... Ouais.
Enfin, cette journée de shooting, je pourrais jamais l'oublier parce que t'as 25 personnes, j'avais 25 personnes qui sont venues pour mon projet venir dépenser leur dimanche après-midi, genre autour de moi, poser en boxeur avec des inconnus. devant justement ma photographe Emna, que je remercie encore. C'est un moment qui est hyper humain en fait, et tout le monde m'a dit mais merci quoi, parce que merci d'avoir de nous avoir réunis, merci de nous mettre à l'aise. On a trop hâte que ça sorte pour que justement faire évoluer les mentalités quoi. C'est hyper important.
Qu'est-ce qui se passe du coup quand tu mets 20-25 mecs qui sont pas des mannequins professionnels en sous-vêtements dans la même pièce?
Ouais.
C'est quoi la dynamique? C'est quoi l'ambiance? Est-ce qu'il y en avait qui étaient plus timides, plus intimidés que d'autres?
Complètement, oui, bien sûr. Et donc il faut les mettre à l'aise, leur dire écoute, s'il y a des choses dont t'es pas à l'aise, tu t'en fais part à ma photographe. Mais Emna, justement, qui les a tous shootés. Et une personne, c'est un rayon de soleil, donc du coup, toutes les personnes qu'elle rencontre, elle les met extrêmement bien à l'aise. C'était hyper bienveillant, donc il y a différentes scènes, c'est dans la chambre, dans le salon, dans le jardin. Il faisait hyper beau ce jour-là. Et ouais, je pense que tout le monde s'est senti à l'aise. Et ils comprennent le message, ils comprennent qu'est-ce que je souhaite véhiculer, donc je pense qu'ils sont tous extrêmement fiers de participer à ce mouvement-là. Et moi aussi, j'en suis hyper reconnaissant. Enfin, je suis trop content qu'il l'ait fait.
Quand est-ce qu'on peut acheter tes boxers, du coup? A priori.
Donc, a priori, avant Noël. Ok. Obviously.
Pourra mettre des boxers My Jojo sous le sapin.
Exactement. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Là, je suis en train de juste réfléchir à comment je vais faire le lancement de la marque.
Ok.
Ouais.
J'ai deux dernières questions pour toi, qui sont des questions où il y a trois questions rituelles dans le Boys Club. Il y a la première, ça veut dire quoi être un homme.
D'accord.
Et il y en a deux autres, qui sont pas forcément très faciles, mais ça dépend de... C'est pas le même niveau de difficulté pour tous les invités.
Ok.
La première, c'est comment va ta bite?
Comment va ma bite?
Yes.
D'accord.
Donc c'est une question pour parler de ton rapport à ton corps et à la sexualité en général.
D'accord.
Du coup, Rémi, comment va ta bite?
Ma bite va très bien. Elle est en pleine forme en ce moment. Elle a retrouvé son mojo.
Ok.
Le mojo dans le Jojo. Putain, c'est pas mal ça.
Ooh.
I like it. Elle a retrouvé son mojo. Et elle est très appréciée en ce moment.
Ok.
Wink, wink.
On a du succès. Quand du coup, t'avais une baisse de libido, c'est ça, quand tu dis à la retrouvé son mojo?
Une baisse de libido, en effet, ouais. Ouais, quand je vais pas bien, quand je suis triste, quand je suis stressé. Baiser, c'est vraiment la dernière chose que j'ai en tête. Et quand je me sens connecté, quand je me sens écouté, quand je me sens apprécié, quand je suis en confiance, comme une fleur, j'ouvre mes pétales et ma bite va bien.
Comment tu les vis, ces moments de baisse de libido? Parce que c'est un sujet qui peut être sensible, surtout qu'il y a cette idée culturelle très très fausse qu'un mec, ça a tout le temps envie de baiser, et alors que non. Du coup, comment tu vis le fait qu'il y a des périodes avec et des périodes sans? Est-ce que ça a déjà été compliqué pour toi à aborder ou... Ouais.
Bah, j'en parle beaucoup avec mes amis. Mais pareil, cette notion de honte revient assez régulièrement parce que j'ai honte de ne pas autant faire l'amour avec mon copain. J'ai honte de ne pas pouvoir assurer au lit. J'ai honte, je me mets une pression de ne pas être moins performant, de pas éprouver du désir pour mon copain, donc Charles en l'occurrence. Mais une des belles choses encore avec ce garçon, c'est qu'il est extrêmement attentif, compréhensif, et qui m'écoute. Il me met aucune pression. C'est pas forcément un sujet dont on parle, parce que ça sert pas forcément d'en parler, mais il me laisse le temps, et ça c'est un luxe. Que d'avoir justement un copain qui me laisse très tranquille et accepte justement toutes les hausses et baisses de libido. Mais personnellement, c'est vrai que c'est un peu relou parce que bon, c'est quand même super chouette de faire l'amour, de connecter avec quelqu'un d'une manière aussi intime, d'être en synchro avec quelqu'un. Donc c'est dommage, mais l'été, c'est pas mal en vrai pour... s'amuser de nouveau et voilà.
Est-ce que tu en as déjà parlé à ton psy?
De ma baisse de libido? Non, pas forcément. Parce que je sais à quoi c'est lié. Voilà, donc du coup, il suffit juste que j'aille mieux, que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance avec mon corps. que je me sente sexy. Mais après, ça marche. Très bien.
Ok, cool. Du coup, ma dernière question,
ouais.
C'est... le but, c'est de faire un genre de tour d'horizon de rôle modèle masculin qui peuvent représenter des masculinités positives, parce qu'on en parle beaucoup côté féminin, mais pas beaucoup côté masculin. Du coup, c'est... Est-ce que tu as une idée de mec qui, pour toi, représente une masculinité positive? Ça peut être un mec... alors, il a sorti son ordi, il est en train de...
Parce que j'ai fait une liste.
Il a fait une liste.
Je connaissais cette question, j'étais en mode, il faut pas que j'oublie que j'ai des trous de mémoire.
Écoute, t'as bien fait, parce que je pense qu'il y a plein de gars qui ont une idée et ils arrivent et ils oublient instantanément leur idée, ils sont là.
Mais combien?
Je sais pas, je sais plus. Ok.
J'aime bien Obama.
On a eu plusieurs fois Obama, c'est un des rares qui est revenu plusieurs fois.
Alors, tu es prêt?
Je suis prêt.
Pardon. Donc, à l'étranger, parce que je l'ai découpé en deux. À l'étranger. Okay. Et en France.
Merveilleux!
Parce que, pour revenir sur ce mouvement justement de masculinité positive, c'est un mouvement qui est quand même extrêmement présent aux États-Unis, en Angleterre, au Brésil, étonnamment, mais très peu en France.
On commence.
Exactement, donc de plus en plus. Donc j'ai séparé à l'étranger et en France. À l'étranger, donc j'ai Jonathan Van Ness de Queer Eye, qui est vraiment genre... My God, my Jesus. Incroyable. Jeffree Star, tu vois qui c'est? C'est un youtubeur.
C'est un youtubeur beauté.
Exactement.
Ouais. Ouais. Qui a lancé sa marque et tout. J'ai suivi un peu.
Qui est businessman, qui est vraiment incroyable, hyper inspirant. Justement, qui est une des raisons pour lesquelles j'avais aussi des faux ongles, parce que lui aussi a des faux ongles, il y a plein de diamants et tout. Enfin bref, trop fan. Un journaliste qui s'appelle Fran Tirado, qui a créé. Enfin, co-créer un ancien magazine qui s'appelait Hello Mister, qui est un magazine queer fabuleux, et donc qui maintenant a un podcast qui s'appelle Food for Thought, T-H-O-T. Thought qui veut dire genre un peu slut, tu vois, genre... Et donc c'est quatre queers qui se réunissent et qui font un podcast, c'est trop bien. Troye Sivan, donc qui est le chanteur australien, qui pareil avait... qui était le premier garçon que j'ai vu avec du vernis à ongles, je suis en mode genre, c'est trop stylé, I need to do the same. Un comic sur YouTube qui s'appelle Benito Skinner, que j'adore, qui est exceptionnel aussi. Et un Instagrammeur qui est body positif, égypto-canadien, qui est l'égérie de Sephora Canada, qui s'appelle Mina Gerges.
Ok.
Voilà. En France... Juste...
Il y a une bonne partie de ces exemples, peut-être tous, il y en a quelques-uns où je suis pas sûr, qui du coup sont hétérosexuels, homosexuels ou queer,
ouais,
dans, sous l'emblème queer. Est-ce que tu penses que ça vient du fait que tu peux peut-être plus facilement t'identifier à eux, tout simplement parce que vous avez ce point commun, ou est-ce que tu penses que c'est simplement que chez les hétéros ça avance moins vite et que c'est plus dur de trouver des exemples de masculinité positive?
Complètement, complètement. Mais surtout ces personnes-là. Et justement, comme ce que je suis en train de faire, sont en train d'accueillir leur part de féminité, le mettre vachement en avant. Ils sont hyper fiers de ça. Et moi, je trouve ça extrêmement inspirant, personnellement. Donc, c'est pour ça que je les ai cités. Mais complètement, les hétéros sont un peu en retard. Il y a quelques activistes féministes américains, hétéros, qui existent, mais j'oublie leur prénom.
Ils sont pas dans ta liste.
Non, ils sont pas dans ma liste.
Ok.
Non, mais ça veut pas dire que je les aime pas.
Merci. Passons à la France.
En France, Bilal Hassani. Oh my god, justement, quand j'ai vu que vous l'aviez invité, je suis genre, waouh, je vais être sur le même podcast que Bilal Hassani. moi, c'est une personne, je suis tombé amoureux de lui en le découvrant sur YouTube, quoi. Et pareil, une belle part de féminité, exceptionnelle à l'Eurovision. Et donc, je suis très fier de le mettre dans cette liste. Gilles Lelouch avec le film Le Grand Bain, qui était très très bien, hyper émouvant, pareil, une diversité de morphologie, des représentations des masculinités un peu plus en lien avec justement raconter ses faiblesses, être vulnérable, et aussi le boys club justement qui se crée tous ensemble et pour faire la gymnastique, la natation synchronisée, exceptionnelle. Romain Bro, est-ce que tu vois qui c'est?
Oui, et qui joue dans Les Crevettes Pailletées.
Exactement.
Oui.
Et qui est au cabaret Madame Arthur.
Qui est du coup drag queen.
Alors justement, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'identifie.
Je ne suis pas sûre non plus. Ouais. En tout cas, dans Les Crevettes Pailletées, qui est un film vachement cool sur une équipe de waterpolo gay française, Romain Bro joue un personnage de femme trans qui du coup était membre de l'équipe avant sa transition et qui redevient membre de l'équipe après sa transition. Ce qui pose plein de questions de on a une équipe de mecs gays, est-ce qu'on peut prendre une femme trans? Et très vite c'est bah oui t'es con parce que c'est Fred, genre bien sûr Fred fait partie de l'équipe, c'est tout, il y a pas de doute, et qui représente du coup un côté plus féminin et flamboyant dans l'équipe. Regardez Les Crevettes Pailletées si vous l'avez pas vu, il est vachement bien, voilà. Et du coup Romain Bro, c'est son travail de d'incarner cette forme de fluidité de genre, mais effectivement, je suis pas...
J'aimerais beaucoup l'avoir justement sur mon podcast pour voir comment lui se définit. Je pense qu'il est non-binaire. Mais à voir. Tristan Lopin, pareil, qui était sur ton podcast.
Oui, ils sont tous là.
Et justement, encore sur ton podcast, Marc Briand-Terlet, donc le fondateur de Horace. Mm-hmm. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est un des seuls hétéros, je crois qu'il est hétéro.
Oui.
I think, oui. Dans cette liste, qui veut mettre en avant des représentations des masculinités un peu plus diverses et inclusives à travers le monde de la beauté. Donc, trop chouette.
Oui, bah, j'y ai pensé quand tu parlais de ton shooting et tout, ça m'a rappelé l'épisode. Donc, Horace, c'est une marque de beauté, de cosmétiques pour hommes. Et on avait reçu son fondateur qui expliquait un peu pourquoi il s'est dit je vais faire des crèmes hydratantes, etc. pour hommes, sans aller à fond dans le. Au pétrole et au titane pour les vrais bonhommes, mais juste avec un truc assez sobre. Et on avait beaucoup parlé de qui sont ses modèles, qui sont ses clients, qui rentrent dans sa... Du coup, il sait beaucoup sur Internet, mais quand ils font des pop-up shops, est-ce que c'est des mecs qui passent un peu une tête en mode « Bonjour, j'ai la barbe qui gratte, aidez-moi » ou est-ce que c'est des mecs qui sont déjà hyper tight sur tout ce qui est hydratation. Enfin, c'était très intéressant, voilà. Allez écouter tous les épisodes avec tous les membres de cette liste qui sont passés dans le Boys Club. Peut-être qu'on recevra les autres.
T'as vu des pointes, quoi. Enfin, je veux dire,
en vrai, Gilles Lelouch, c'est mon goal. J'aimerais tellement... Ça fait genre 4 fois que j'essaye. J'aimerais tellement avoir Gilles Lelouch dans le Boys Club.
Si quelqu'un le connaît...
Dites-lui, il vient et il peut avoir une dérogation pour ne pas parler de sa bite. Si c'est vraiment juste ça qui bloque, ça me rendrait très triste. Mais s'il y a que ça, je peux faire un effort. J'aimerais beaucoup avoir Gilles Lelouch. Parce que je pense que, enfin, pour moi, il représente une forme de masculinité traditionnelle, mais pas toxique, justement. Genre, pour moi, Gilles Lelouch, enfin, il rentre dans tous les canons de le mec le vrai, tu vois. C'est un grand quinca, a priori hétéro, barbu, un peu bourru, un peu musclé, qui fait souvent des rôles. De grosses couilles, on va dire, et derrière il fait le grand bain, et j'étais
c'est
là.
Hyper étonnant.
Ok, trop bien. Ouais. Congrats, Gilles Lelouch, j'aime tout ce qui se passe. J'aimerais aussi avoir Jean Dujardin, si vous connaissez Jean Dujardin, dites-lui de m'envoyer un mail. Voilà.
That would be crazy.
Ah, peut-être les deux en même temps. Oh my god. Avec beaucoup de vin rouge. Ce serait si bien, mais là c'est juste un kiff, c'est juste pour moi, je le mettrai pas en ligne. Merci beaucoup, Rémi. Est-ce qu'il y avait des trucs que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé?
Non, je crois qu'on a bien fait le tour.
On a fait un bon tour.
Ouais.
C'était trop cool de te recevoir. Complet.
Merci beaucoup.
Et du coup, il y aura tous les liens dans la description pour aller voir ton boulot, pour aller voir ton shooting. Il y aura tes boxers quand ils seront sortis. Ouais. Ça va être chouette. Et tout ce dont on a parlé, bien sûr, genre faire une thérapie ou les clips de Bilal Hassani, ce sera dans la description. Merci beaucoup, Rémi. Salut.
Bye bye. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.